Les Transcévenols, 27e édition, c'est à Sumène les 20 et 21 juillet. De la chanson sauvage à l'électropop, du rap à l'afrofunk japonais, les Elvis platinés invitent à la découverte de propositions musicales éclectiques, mais pas que. C'est aussi un espace de jeu pluridisciplinaire qui englobe aussi les arts de la rue sous toutes ses formes, en plus des rencontres, projections et ateliers. Rendez-vous à Sumène les 20 et 21 juillet. Tout le programme et les détails sur lestrans.org.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs, bienvenue sur les ondes des radios associatives Escapade, Radio Système, Radio Bartas, Radio Sommière et Rage. Nous sommes en direct pour la dernière émission sur le plan ici à Sumène pour la 27e édition des Transcévenols. Et je serai accompagnée d'Alex pour l'animation générale. Salut Alex.
Salut Siam.
Ça va?
Ben ouais, parfait.
On avait hâte de commencer cette émission là, ça faisait long.
Ouais.
Alors pour le côté technique, on aura Fabien toujours en technique ici. Et pour les interviews, Antoine, Hugues, Ben et Sarah. Alors Alex, on va démarrer peut-être avec un petit sommaire de cette dernière émission ici à Sumène.
Ben ouais, un programme bien rafraîchissant comme l'a été cette nuit et cette matinée. On aura le plaisir de retrouver forcément l'équipe des Elvis Platinés pour développer un petit peu ce qui s'est passé sur cette 27e édition avec aussi les scénographes, ceux du Radeau de la Méduse, figure-toi. C'est eux qui nous font là, toutes les jolies constructions, installations pour se repérer facilement. On retrouvera grâce à nos petits jeunes de Radio Sommière, notamment des spectacles aussi, celui de Clara Oman, No Coffee for the Queen. On ira aussi du côté de la compagnie En Transition pour ce spectacle enfin. Et de la musique aussi. On aura les Ajaté, là ça va parler japonais, accrochez-vous. On aura les Rafu. Et dans très peu de temps, les sages comme des sauvages.
Mais juste avant, un honneur aux jeunes. Alors on a effectivement Zia, Paul, Zeno et Mathieu qui ont parcouru toute la matinée malgré la météo de ce matin. Ils ont fait des micro-trottoirs et on vous propose d'écouter un premier.
Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Sommière 109.9 FM. Nous sommes avec Julie, Julie qui va nous présenter son spectacle qui s'appelle Rosemont. Bonjour Julie.
Bonjour tout le monde.
Donc moi d'abord je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous présenter vous et votre spectacle?
Waouh, alors en plus, alors moi, donc effectivement c'est un spectacle qui repose vachement sur moi parce que c'est un solo et qui est très proche de ce que je suis moi-même aussi, en très distancé en même temps. Et ben moi je suis une ancienne circassienne, je suis quelqu'un qui vient du milieu du cirque. Via le cirque, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du clown. Et puis, je me suis mis au fur et à mesure de ma vie professionnelle à faire plus que des spectacles avec de moins en moins de cirque et de plus en plus de rapports publics, de théâtre. Donc, c'est un spectacle qui est très en interaction avec le public. C'est du théâtre clownesque de rue. C'est un personnage qui vient faire le saut de la mort qui tue. Un exploit très dangereux qui lui fait peur et qui met très longtemps à arriver à le faire. Et qui, avec ses digressions, parce qu'il a peur de faire cet exploit, vit des choses intenses et forte avec le public.
Jusqu'à où on peut aller avec le suspense dans votre spectacle?
Et c'est un spectacle d'une heure qui a été créé comme un numéro de cirque qui dure 5 minutes avec les roulements de tambour. Est-ce que le circassien va le faire? Il y a un truc comme ça, c'est... Attends, je vais pas le faire, il me manque un petit truc, je vais faire 2 pas en arrière. Ça fait vraiment 3 pas en arrière, 2 pas en avant. C'est un gros travail sur le suspense. Tenir en haleine les gens, qui est un travail de risque, alors que finalement... Finalement, je m'éloigne du risque du circassien, mais j'ai gardé le thème du risque et du suspense et de l'attente. Et ma force est là-dedans, ma force est d'en créer du lien avec le public. Donc, je suis très empathique et sympathique avec le public. Il y a un lien très fort, les gens restent, ils sont avec moi, ils ont peur pour moi, ils ne savent pas si je vais le faire. Et c'est vraiment un travail sur le risque et le suspense. C'est vrai qu'avec le suspense, il faut savoir bien le doser. Il ne faut pas dire pendant 3 heures que tu vas faire un truc et tu t'assois sur une chaise et t'attends. Là, les gens, ils partent. Non, c'est un travail vraiment sur garder le public. public, que ça soit ultra vivant. C'est un spectacle qui est... voilà, moi je suis en présence à 400%. Je suis 400% là, je prends ce qui se passe en impro. Les gens même reviennent le lendemain des fois voir qu'est-ce qui est écrit ou improvisé dans le spectacle.
Pourquoi dans le programme, du coup, il est écrit que vous êtes inattendu et culotté?
Eh ben, ça revient un peu avec la question d'avant sur, sur le suspense et tout ça, sur inattendu... On ne sait pas où on va aller, on ne sait pas si elle va réussir à le faire, on ne sait pas pourquoi on reste. Finalement, on se dit, on se fait avoir par ce personnage, on se fait avoir par son empathie et tout, on reste, mais on se fait avoir à rester ou pas. Et voilà, le côté culotté, c'est vraiment de venir présenter un spectacle d'une heure avec un saut qui dure 30 secondes. Donc moi, le saut, une fois que je saute, je tombe et je m'écrase et sur des cagettes. C'est très impressionnant visuellement, mais... en même temps, il se passe une heure autre chose qui n'a rien à voir, et ça c'est culotté. Et il n'y a pas de musique, c'est un spectacle sans numéro, c'est un spectacle qui est que sur de la vie du jour, de ce qui se passe maintenant avec les gens. C'est très très vivant, et c'est du spectacle de maintenant.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Et ben, merci à vous, merci pour ces questions, et puis à tout à l'heure peut-être.
Le vélo m'a aidé à me rendre sous la pluie, à la fête où je voulais danser toute la nuit. Oh mon souci, mes soucis, laissez-moi danser assez, attendez jusqu'au matin. Et puis vélo m'a guidé de retour vers la maison. Et puis vélo est tombé, et puis moi sur le menton. On dira que je me parle, ou que mon poulpe m'appelle et m'emmène voir le fond.
Dans les nuages que mon encre dessine à l'horizon, je te dirai l'avenir au beau milieu des poissons. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, reste encore un moment. N'écoute pas les gens. Et puis ma tête à demi, gaiement s'est dirigé, où s'écoulent les demi, et mon rire qui se mélange aux autres et puis à la pluie, me faisait un bien étrange. Et mon vélo me tenait, et à côté je marchais, et vélo s'est écroulé, et par solidarité, j'ai amené mon visage s'écraser sur le pavé. Mon poulpe m'attendait.
Je me languis de toi, tu m'avais manqué tout au fond. Mes nombreux bras tout autour de toi seront à mes...
Vélo par Sages comme des Sauvages, ici depuis cette émission qu'on vous propose depuis Radio Escapade, Rage, Radio Système, Radio Barthas et Radio Sommière, en direct depuis Le Plan. Et figurez-vous que si on vous fait écouter les Sages comme des Sauvages, c'est pas un hasard, ils sont là ce soir sur les Trans-Cévenol bien sûr, et sur notre plateau. Et pour les saucissonner gentiment avec des gentilles questions, c'est Antoine d'Escapade et Ben de Barthas. Bonsoir messieurs.
Tout à fait, merci. Bonsoir.
Salut, bonsoir.
Salut tout le monde. Bonsoir les Sages comme des Sauvages.
Bonsoir.
Ava,
bonsoir.
Et Ismaël dans le civil, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et bah, bienvenue déjà. Vous arrivez de chez vous, je crois.
Ouais. Directement.
C'est une
directement,
bonne nouvelle déjà. C'est,
là, dans dehors de l'Occitanie.
Quelque part. Mondial. Donc ouais, le vélo, quoi, le vélo tout court qu'on a écouté. En petit clin d'œil, puisqu'il y a dedans donc une collaboration avec MPL qui jouait ici l'an dernier. Il y a pas mal de vélos qui sont utilisés sur ce festival cette année. Il y a 2-3 sonos qui sont actionnés uniquement à la force musculaire.
J'espère que vous faites de la prévention sur le vélo.
Sur les casques, je ne sais pas s'ils sont au top ici. Oui. Le skateboard en fait pas mal aussi. Ouais.
Parce que nous, ce qui nous a inspiré cette chanson, c'est les dégâts du vélo.
Les ravages du cyclisme.
Les ravages de la promotion ici, ouais. Douce.
Donc vous êtes venus en voiture?
Ah ouais, oui, beaucoup plus sûr.
C'est beaucoup plus prudent.
Du coup, cet extrait qu'on a écouté fait partie de votre nouvel album qui s'appelle Maison Maquis. Qu'est-ce qu'on... Vous allez nous en jouer, j'imagine, pas mal ce soir sur scène, à 20h45, je place l'horaire.
Oh oui.
C'est ça, on va surtout entendre donc votre nouvel album.
Ouais, carrément.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de ce qui vous y a... C'est le retour à la maison, Maison Maquis.
Il est moins bien que celui d'avant.
Ouais, c'est ce qu'on m'a dit.
Je pense qu'on est sur le déclin.
C'est un album maison alors, Maquis. Vous avez pris un petit peu le maquis là pour
celui-là. Globalement, quand même, la couleur de celui-ci est beaucoup plus, direct et plus dansant, on va dire. On s'est dit que peut-être nous, le besoin qu'on avait, on espère qu'il y en a d'autres dans le même besoin, c'est de se ragaillardir les uns les autres et de se faire un bon petit coup de fête boost pour pouvoir un peu repartir dans tous les bazars incessants du monde où tous les 6 mois il y a des nouvelles plus chiantes que les 6 mois d'avant. Donc on s'est dit, la fête prend un peu une autre tournure. Le maquis, c'est en même temps la végétation qui pique, en même temps l'endroit où il y a les résistants qui se retrouvent, et en même temps le petit bar de l'Afrique de l'Ouest où on va boire des coups. Donc on s'est dit que c'était un peu tout en même temps qu'on voulait amener, quoi. Voilà.
Sur vos albums précédents, on vous a aussi connu pas mal de couleurs, notamment de La Réunion. Il y a ces rythmiques-là, ces manières de chanter. Est-ce que cet album, il est toujours... aussi teinté de ces couleurs-là, ou vous avez changé un petit peu?
Il y a toujours au moins une reprise de Alain Peters, qui est notre chanteur réunionnais, notre meilleur ami mort, on l'appelle. Et ouais, il aime pas que je dise ça, Ismaël, ça spoil une blague.
Elle fait que spoiler cette blague.
Mais ils écoutent pas vraiment. Et donc oui, il y a toujours ça. Et puis sinon, on teinte un peu avec ce qui...
En fait, nous, notre point de vue, c'est qu'on vit déjà dans un monde hyper créole. Ici, chez nous, en métropole, les grandes villes, les campagnes, etc. En fait, souvent, on essaie de revendiquer des... C'est marrant, on revendique souvent des identités d'un endroit, maintenant, beaucoup, tout ça, c'est intéressant. Mais nous, on est un peu de nulle part. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu de nulle part, un peu flottants. Et en même temps, il y a plein de choses qui se croisent. Je sais pas, tu peux aller manger asiatique un peu partout. Tu as des buffets chinois à volonté partout. Voilà, ce genre de choses. Et je pense que tout ça fait un peu des créolisations. Et donc nous, notre musique finalement est très locale, elle paraît très exotique, mais elle est vraiment du coin de la rue. On est assez feignant, on prend ce qu'on trouve un peu sur le chemin, on est curieux mais feignant. Voilà, c'est un peu ça.
Et sur les gens qu'on entend dans ce disque, bon, il y a quelques invités, on les a un petit peu cités. Il y avait d'ailleurs aussi Sofiane Saïdi qui a joué hier. Et. Voilà. Mais sinon, vous, qui joue dans votre album?
Tu veux dire les musiciens ou les invités?
Ouais, les musiciens justement.
Ah, va, tu peux les présenter?
Bah, sur l'album,
elle a oublié les noms. Elle a oublié les noms.
Vous jouez
quoi? Tu veux dire les invités? Parce qu'en fait,
les musiciens. On joue.
Les musiciens, parce que c'est produit très différemment des autres albums. Les autres,
on a quasi tout joué. On a tout
celui-là.
Joué nous. Il y a que nous, presque. Ava et moi, on a tout joué. Il y a Daku avec qui on a refait toutes les prods rythmiques, etc. Daku qui a un super groupe qui s'appelle Chege notamment. Et en fait, voilà, avec lui, on a refait toute la couche rythmique. Mais sinon, on a tout fait que nous. Il n'y a que nous qui jouons cette fois-ci.
Mais c'est ça qui est marrant, c'est un paradoxe, parce qu'on l'a fait à la maison et en même temps, il est plus fat que les autres, puisqu'il était produit ensuite par Daku. On l'a repassé par lui. Et c'était intéressant aussi de confier les chansons à quelqu'un d'autre et qui prenait des libertés larges et qui nous réjouissait.
Ben, je crois que la production, ça t'intéressait.
Ouais, la production, la réalisation des albums. Parlons de production d'abord. De production d'album d'abord, votre premier album a été produit par Batlick.
Ouais.
Et ce personnage absolument incroyable que j'ai eu la chance de croiser dans mes pérégrinations musiciennes. Comment ça s'est passé cette rencontre? Et je vais aussi aller sur une deuxième question, c'est-à-dire que le partage et ce genre de musicien parfois mériterait d'être connu et il reste un peu underground. Comme
bah, d'autant
ça.
Qu'il a arrêté et que maintenant il va faire chef, il va faire à bouffer maintenant dans un restaurant à Paris.
Il arrête totalement la musique.
Il a fait sa dernière tournée.
La cuisine, on peut dire. Il faut être positif.
Espérons que ces mélanges cuisiniers soient meilleurs et aussi bons
aussi
en tout cas.
Bon,
que...
c'est sûr. Je pense.
Et comment ça s'est passé en tout cas sur la production avec.
Est-ce qu'on fait la vraie réponse ou la blague?
Je sais pas. Celle
que vous voulez.
Parce que lui, il dit qu'on s'est rencontrés dans une boîte à cul à Mulhouse, mais.
Ouais. Non, c'est lui qui est venu nous chercher. Franchement, c'est lui qui a fait tout le boulot. Batlick, il a fait vraiment le premier qui a fait la conversion. Nous, on était un groupe à la base, on n'avait pas prévu. Hein. C'était pour jouer, passer le chapeau, payer des vacances. Hein. On n'avait pas du tout prévu d'en faire un groupe. Et il y a eu plein de hasards. Ça serait un peu long à raconter. Mais lui, c'est le premier qui d'abord nous a invités à faire sa première partie au Café de la Danse pour la sortie d'un de ses albums. Donc, on est là, ah ouais, cool. Et après, entre-temps, quelques mois après, il dit, ah, mais vous en êtes où niveau album et tout. Et on venait d'enregistrer, en fait.
Mais c'était un mini truc, on a enregistré ça un peu vite fait. On avait rencontré un ingé son qui voulait nous enregistrer. On a fait ça. On a dit enregistre-nous comme tu enregistrerais des pygmées dans la forêt, quoi. En mode ethnomusicologie, tu vois. Sous-produit le truc. Mais pas le son trop fort. Et Batlick a produit cet album qui n'avait aucune ambition commerciale possible. Et finalement, ça a marché. Donc voilà. Je pense aussi que du coup, il est un peu comme son idole à Batlick. Faut pas oublier que c'est Rocky. Il faut pas oublier que Rocky, il perd le combat à chaque fois.
Et il nous a appris un super truc, c'est comment travailler ensemble et rester amis.
Ouais.
Et merci à lui.
Et puis la découverte aussi, parce que je pense à plein de gens dans la musique française qui sont en bas, les Le Prest, etc. Ou Thomas Pithiot aussi, qui ouais. Voilà. Et c'est-à-dire des gens qui mériteraient d'être connus. Est-ce que c'est important, et oui, je finis là-dessus, d'avoir une espèce de tube comme vous avez, entre guillemets, pouvoir en vivre? Est-ce que c'est le conseil que vous donneriez dans la chanson?
De toute façon, un tube, tu peux vraiment pas te dire je vais faire un tube. Nous, celui-là, on n'aurait jamais imaginé que cette chanson serait ce que tu appelles, enfin tu dis le tube. Donc, si on disait aux gens il faut faire un tube, bah, bonne chance pour. Parce que souvent, on ne sait pas ce qui va faire le tube. Et quand tu cherches à faire le tube, ça ne fait pas le tube. C'est mystérieux le tube.
Mais quelque chose qui va être connu, en fait, pour.
La vie, c'est. Déjà, on va dire, si tu es gosse de riche et que tu habites à Paris, tu augmentes tes chances de 80%. Déjà, si tu n'as pas ça. Tu peux essayer de faire un tube, mais bon courage. Voilà, je pense que... voilà.
Merci beaucoup.
Je crois qu'on va devoir se quitter là, parce qu'il y a du monde. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Bye bye.
Avec plaisir, et 20h45, du coup.
S'il vous plaît bien.
Pardon. Sur la grande scène.
Sur la grande scène.
Ah ben voilà.
À toutes. Merci.
Bonne balance à vous.
Ça va trop vite.
Merci Belle, merci Antoine. Et oui, désolé. Et puis, on va partir là tout de suite en musique avec Ravu.
Dal fondo come si fosse pescato in slaigua, agafate l'aire in mezzo d'una frontera, donem la massa e scalfen le nostre lingue.
affût sur les ondes d'Escapade, de Radio Système, Radio Bartas, Radio Sommière et Rage. Ils ont su arrêter justement leur balance juste pour nous laisser prendre les micros. Ils sont là avec nous et bien sous les questions avisées de Sarah et Hugues.
Et salut.
Salut, oui.
Bonsoir. Salut Alex. Bonjour affût.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait les balances, ça donne déjà envie de danser. On a envie d'en savoir beaucoup plus sur vous. Et tout d'abord, la première question, comment s'est formé votre trio ?
Alors, c'est assez simple. On habitait ensemble tous les trois. Et on s'ennuyait un peu et donc on s'est dit qu'on allait faire un groupe tous les trois. Voilà, avec chacun un peu ses influences. Au début, beaucoup Forró, donc du nord-est du Brésil, et musique associée, donc coco, maracatu, ciranda, et rock, voilà. Et puis, on avait aussi tout cet univers de trad qu'on partageait ensemble. Donc, on a fait notre mixture.
Voilà, justement, cette mixture, cette fusion, vous fusionnez plein de styles, l'Afrique, comme tu disais, le Brésil, la musique portugaise, le catalan. Mais j'ai remarqué aussi, dans votre formation, en fait, il n'y a pas de bassiste. C'est volontaire ?
Dans la colocation, il n'y avait pas de bassiste.
Il n'y avait pas de bassiste, donc ça vient de là, en fait. Et est-ce qu'à l'avenir, vous envisagez d'intégrer ce type d'instrument ou ça vous convient parfaitement ?
De réfléchir à intégrer de la sonorité basse encore plus, oui, mais une quatrième personne, a priori, ce n'est pas dans les starting blocks, pas du tout. On est bien à trois, c'est énergie à trois. C'est une musique où la grosse caisse permet de faire cet office avec le foro, enfin cet instrument qui à la base est une zabumba, on va dire,
oui,
transformée.
En fait, ouais, dans la chanson qu'on vient d'entendre, c'est une zabumba et depuis on a pris un petit level rock and roll, quoi. Donc c'est passé sur d'autres instruments, mais c'est cette manière traditionnelle de jouer dans le nord-est du Brésil où la basse, c'est un rôle qui est rempli par la zabumba.
Par ce type d'espèce,
ouais. Une espèce de sourdeau en fait qui a un sustain dans les basses et du coup qui a
une sonorité plus grave et qui joue le rôle finalement.
Voilà, qui fait pas juste
basse,
le poc, mais qui fait aussi le boom.
D'accord. Voilà.
Et justement, boom. Comment ça fait boom entre vous en termes d'énergie ? Comment ça se passe la création d'un morceau, les choix ? Alors on va mettre plus de telle influence, plutôt parler de telle langue.
Eh bien, on amène chacun un peu nos influences sur chaque morceau. Alors, pour une petite parenthèse du trio, moi, j'ai intégré le groupe il y a 2 ans. Je ne faisais pas partie de la coloc à la base, la fameuse. Mais je suis un voisin. Voilà, donc c'est un peu pareil. Et au départ du guitariste, du coup, j'ai pris sa place. Et donc, avant, je ne sais pas trop comment il faisait, mais je pense que c'était à peu près pareil. C'est-à-dire que chacun amène son influence. Gabriel va plutôt ramener tout ce qui est rythmique autour du foro, des différents types de danse, de bal. On a une bourrée, on a des valses, etc. JB va plutôt amener les textes, des mélodies de chant, etc. Et moi, je vais m'occuper de la partie guitaristique avec mes influences aussi, quoi. Donc cette fusion de tout ça, ça fait des créations originales. Voilà.
Après ce passage au 37 Hall, on peut parler de vos projets d'avenir ?
Oui, on peut en parler.
Et parlons-en. Quels seront-ils ? On est avide d'informations, on aimerait bien savoir.
Eh bien là, dans la continuité, on joue prochainement au Festival du Voyage Lent, à Rock Castel. C'est la prochaine date et c'est la dernière de l'été. Après, on fait un petit break et on va très vite enchaîner à l'automne-hiver avec l'enregistrement du prochain album pour Rafu. On fait ça dans un studio un peu plus vers l'Atlantique et on est très content de faire ça, accompagné par et supporté par Cervantes, notre boîte de prod. Et donc ça, c'est le projet principal qu'on a. Ça, on a toute la création qui est globalement faite. Maintenant, on essaye de la travailler, de la préparer pour être en studio dans de très bonnes conditions et puis pouvoir présenter ce nouveau spectacle.
Restituer sur scène, voilà.
C'est ça, à partir de on va dire, avril-mai, à laquelle est prévue la sortie de l'album prochain, et enchaîner sur ce nouveau spectacle.
Ça sera un plaisir de vous retrouver sur scène. En tout cas, ce soir, on va vous retrouver sur la scène. Hein,
oui, à 19h.
À 19h, c'est ça. Place du plan.
Sur le plan.
Gratuit, s'il était utile de le rappeler.
On rejoint en plus. Nous.
Venez nombreux et nombreuses.
Merci à vous. Peut-être les Raffus pour conclure. Pourquoi ce nom assez brutal pour une musique qui est quand même assez accessible?
C'est vrai, tout à fait. Pourquoi?
À cause du voisin.
Peut-être il y avait un peu de ça. On faisait du raffut dans la maison, donc voilà. On avait des voisins très sympas.
Après, on a un instrumentarium aussi assez particulier et singulier, ouais. Même s'il y a une guitare, même s'il y a juste des percus. Mais déjà, ce mélange en soi, il est quand même un peu rentre dedans. La poésie n'empêche pas d'être au milieu. Et il y a quand même un instrument créé de toutes pièces par Gabriel, le conservophone. Il y a des cloches pastorales. Tout ça, on aime bien aussi venir imbriquer, distordre, venir faire un peu crier, crisser, et, sans oublier la poésie et l'énergie solaire, quoi. Mais
En fait, le raffut, c'est plus une manière un peu de second degré pour parler des instruments un peu archaïques et trad. Et malgré ça, on fait pas du punk, c'est vrai. On aime ça, mais on n'arrive pas vraiment à faire du vrai punk. Mais du coup, y a ce côté archaïque où on va s'appliquer étrangement avec des instruments un peu tordus. Et
du trad, voilà. Sauvage.
Ouais.
Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. C'est pas mal. Comme appellation.
Trad sauvage. Comme des sages. Un truc comme ça. J'ai une idée, les gars.
Je crois que c'est déjà pris. Hein. C'est déjà concept. Pris. Hein.
Ah, ouais, on vérifiera sur les internets, voir s'il n'y a pas déjà le nom qui est occupé. Bah, en tout cas, c'était un plaisir d'être vos voisins, du coup, parce que vous jouez donc, comme on le disait tout à l'heure, sur le plan à 19h. Merci encore, messieurs. Merci à tout à l'heure.
Merci beaucoup. Merci.
Merci Sarah, Hugues. Hugues, tu restes pas très loin parce que
je reste là obligé.
T'as quelques petits trucs qui viennent et nous on va continuer. Alors pas en musique pour le coup, on va repartir du côté des scènes d'art de la rue avec la compagnie En Transition et leur spectacle Enfin. C'est un sujet réalisé par nos jeunes de Radio Sommière, Zia, Zeno, Mathieu et Paul.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Sommière 102.9 FM et nous sommes avec Alex qui va nous présenter son projet qui est Fable écologique.
Oui, alors moi je suis le metteur en scène et l'auteur d'un spectacle qui s'appelle Enfin. La compagnie c'est En Transition Compagnie, une compagnie de Montpellier. Et ce spectacle, il raconte le parcours d'une adolescente qui en 2024 avait 15 ans et qui aujourd'hui, au moment de la représentation, a 35 ans. On est en 2044 et elle nous raconte son adolescence et sa vie de jeune femme traversée par les bouleversements climatiques, environnementaux, sociétaux. Et elle raconte un monde qui va bien.
Alors justement, donc la personne donc, qui on parle, c'était une adolescente qui s'appelle Anna, c'est bien ça? Et j'aurais aimé savoir si cette personne, donc Anna, était basée sur une histoire réelle ou plutôt fictive. Tout a été inventé ou pas du tout?
Alors vraiment c'est une fiction, c'est un personnage de fiction, mais c'est moi qui ai écrit et effectivement je me suis inspiré de choses personnelles, d'événements personnels, et puis après je suis aussi allé en résidence d'écriture auprès de chercheurs au CNRS de Montpellier. Donc là j'ai rencontré des scientifiques qui m'ont parlé de leur travail, donc certains de ces entretiens se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans l'écriture du spectacle aussi, mais le parcours de ce personnage c'est une fiction.
D'accord. J'ai une phrase à vous demander, c'était tout simplement, pensez-vous que quand Anna dit « je suis fier de ce qu'on a accompli », cette phrase pourrait-elle réellement prononcer en 2044 ou pas du tout ?
Alors j'ai écrit le spectacle en imaginant que ce serait possible. J'avais envie d'avoir un peu d'espoir. Je trouve que si aujourd'hui on se dit que tout est foutu, bon bah effectivement à quoi bon? Et donc en se racontant que le futur il peut être positif, qu'il peut y avoir des changements qui vont dans le bon sens, que la société évolue dans un sens désirable, ça pourrait être possible. Ouais, on pourrait se dire on est fier de ce qu'on a fait. Et parfois on peut déjà même aujourd'hui être fier de certaines avancées.
Merci beaucoup, Alex.
Merci à vous.
extrait donc d'un titre du groupe Adjaté, hein, qu'on a le plaisir de trouver ici en studio. Donc nous sommes toujours en direct sur Radio Escapade, Radio Système, Radio Sommière et Rage et Radio Partasse. Alors ben justement, Antoine et Hugues, vous êtes là donc à côté de moi.
On est là, on
moi.
Est très très heureux d'être avec vous et de vous accueillir sur ce plateau.
Petite alors, oui. Préambule sur la technique, vu que nos amis musiciens parlent japonais et un peu anglais. Ils sont accompagnés de Greg, qui est aussi leur tourneur et qui bosse sur le label 180 grammes, qui produit donc les Adjaté, qui va essayer de se débrouiller. Donc nous, on va poser les questions en français et puis les auditeurs, vous accrochez, il y aura de l'anglais, du japonais, du français. On va essayer de se débrouiller avec tout ça, mais ça va le faire.
C'est parti.
Vas-y Hugues, je te laisse la primeur.
Alors John, c'est lors d'un séjour en Afrique de l'Ouest que vous avez, on va dire, ressenti les similarités entre la musique afro et on va dire les musiques que jouaient dans les fêtes traditionnelles japonaises. Et à l'issue de ça, quand vous êtes revenu au Japon, vous avez créé cette formation Adjaté. C'est vraiment ça le début de cette aventure?
Johnson, Africa no Lyoko ni itta toki wa sono ato wa まあそのアフリカの音楽と日本の音楽を混ぜてちょっと何そうアジャテの始めを教えてもらえますか。
そのアフリカにから帰ってきた日本に帰ってきた時にちょうどあのアフリカで見てたあの祭りの音楽と日本で帰ってきて見た、日本のお祭りの音楽にとても近いものを感じて、同じ核になる同じものがあるんじゃないかと思ってそれを表現するためにバンドを作りました。
Donc, quand il est revenu du Japon, donc, enfin, quand il a été en Afrique plutôt, donc la musique des festivals en Afrique et tout, enfin voilà, ça l'a inspiré. Et quand il est revenu au Japon, il a trouvé aussi une similitude avec les musiques de festivals au Japon, et ça a germé dans sa tête de faire quelque chose de comme ça en mélangeant un petit peu les deux. Et c'est comme ça qu'il a commencé en fait à penser à monter un groupe, et voilà, il a monté ce groupe petit à petit.
Et alors, puisqu'on parle des similarités, justement, c'est au niveau des instruments que ça se joue pas mal. Donc dans le groupe ils sont 10, on a entendu les musiques sont effectivement entre l'afrobeat et des sonorités plus japonaises, enfin pour ce qu'on en connaît en tout cas. Et la particularité c'est que ce sont des instruments qui sont fabriqués, inventés même par John, c'est ça. Et est-ce qu'il peut nous parler un petit peu de son processus? Et puis surtout il en a un sur les genoux, donc on aimerait bien l'écouter.
John san no gaki, Adjaté no gaki no naka ni so John san wa tsukutta gaki arimasu ne. だからそうちょっと教えてもらえますか。
あ、これを。This. あ、OK。これはあの竹でできた。
Il a fait un, ça c'est donc c'est en bambou, un instrument en bambou。
竹でできた弦楽器です。え、これはなんかアフリカで見た楽器や日本の楽器の僕が欲しいところをミックスしてできた楽器です。
Donc c'est un instrument qu'il a... Pour cet instrument, il s'est inspiré en fait des instruments qu'il a vus en Afrique. Et donc, il l'a fabriqué lui-même. Donc cet instrument en bambou, voilà, qui s'appelle le pied de chikou.
Si on peut l'écouter, ouais, c'est une espèce de guitare à trois cordes, je crois. Le pied de chikou. On peut en écouter un peu.
Choto, play, shite moraimasu ka.
Merci beaucoup. Et puisqu'on pourrait aussi demander à Miliou, c'est ça ?
Nioli.
Nioli, bah dis donc, j'aurais dû l'écrire. Nioli, bonsoir.
Bonsoir.
Qui joue, je crois, d'un balafon. Et il y a aussi des balafons au Japon, visiblement, on a appris ça.
Nioli sanmo, balafon.
Balafon.
On play, shitemasu ne. D'accord. Nihon demo, balafon, arimasu ka ?
Non. Nihon wa, balafon no yona gakki wa nai desu.
Il n'y a pas d'instrument dans les instruments traditionnels japonais, il n'y a pas de balafon.
Africa no gakki o mane shite, ato Asia, Indonesia toka 東南アジアにはそういう楽器がありますので、そのいいところをいろいろ真似して作りました。
Et en fait, donc pour ce balafon, donc ils utilisent en bambou, donc c'est inspiré des balafons africains, mais il y a aussi des instruments qui ressemblent au balafon en Asie du Sud-Est, en Malaisie, en Malaisie aussi. Et donc voilà, c'est un peu un mélange de ces instruments-là, et donc ils ont inventé ce balafon qui est aussi assez unique.
On ne peut pas parler de musique afrobeat, bien sûr, sans citer l'héritage musical que nous a laissé Fela Kuti, ou que ses fils continuent de perpétrer. Je pense à Sean, je pense à Femi. Pour vous, c'est toujours une source d'inspiration, l'œuvre de Fela?
Fela Kuti wa mamochiron ajate nonga kudeso inspire saletan desu. Imamo Fela Kuti no ma Femi Kuti, Sean Kuti no ongaku wa Mada inspire salete masu ka? Onga ma ajate no ongaku no tame.
Daisuki nanode inspire sareteru to omimasu.
Ouais, bah, il adore cette musique de Fela Kuti, donc oui, il pense que ça continue toujours à l'inspirer.
Là, vous êtes en Europe et beaucoup en France pour une belle tournée. Est-ce que c'est la première fois? Et puis du coup, Greg, question pour toi, comment s'est passée la rencontre et l'organisation de tout ça?
Alors, première partie. Alors, Fulansu wa hajimete desu ka? Tsuo.
Gokai me desu.
C'est le cinquième tour. Ah,
okay. Et là, c'est quoi les prochaines dates? Vous arrivez d'où? Vous allez où?
Donc hier on était, donc on a commencé. Alors ils ont commencé il y a deux semaines. Je réponds ou je, ouais. Okay. Bah, donc ils ont commencé en fait il y a deux semaines en Allemagne, en Suisse, ensuite arrivé en France, Mont-Saint-Michel, quelques dates en Bretagne. Hier on était en Ariège, donc aujourd'hui on est dans ce superbe endroit ici à Sumène, et ensuite on va dans la Creuse, sous Paris, et on retourne ensuite en Suisse et ils finissent par l'Italie.
Et du coup, tout simplement, comment est-ce que est reçue la musique de Ajate au Japon même?
Nihon de Ajate no ongaku wa okaku-san toka wa so oi desu ka? Fan wa oi desu ka?
Amari shirarete wa imasen, ima no tokoro.
Alors au jour d'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent la musique d'Ajate au Japon.
Et toi, Greg, au niveau du label, est-ce que tu veux nous dire un petit peu, je sais pas, les disques qui ont été produits, comment vous travaillez ensemble?
Ouais, donc déjà le label, il s'appelle 180 grammes. On est basé à Nantes. La rencontre avec Ajate, ça s'est fait en fait il y a 6-7 ans. Ils avaient sorti un album en CD qu'ils nous ont passé. On a décidé de le sortir en vinyle. C'était la première sortie du label. Et depuis, on a sorti 3 albums, dont le dernier album d'Ajate qui est sorti en mai et qui s'appelle Dalatoni.
Merci à tous les trois d'être venus au micro. Malheureusement, il faut qu'on passe le relais parce que l'heure avance. Vous serez donc à 23h45 sur la grande scène pour finir en apothéose cette 27e édition des Trans-Sevenol. Je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est la 27e. On a hâte de vous voir et puis de rencontrer aussi tous les autres musiciens. Merci d'être venus et bonne suite de tournée du coup pour vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci aussi Antoine Huguin pour ce joli
moment. On est bon sur le timing.
On est très bon sur le timing, c'est incroyable. Le professionnalisme de ce plateau est assez hallucinant. Je ne sais pas si les auditrices et les auditeurs s'en rendent compte. Et on va d'ailleurs repartir, figurez-vous, côté art de la rue avec l'incroyable Clara Oman et son spectacle No Coffee for the Queen. Bien sûr, ce sont les jeunes de Radio Sommière qui l'ont rencontré, à savoir Zia, Zeno, Mathieu et Paul.
Clara Oman, je suis l'autrice et la comédienne du solo No Coffee for the Queen. Et voilà, c'est un solo clownesque dans lequel il y a aussi de la musique et que je tourne maintenant depuis 2 ans, qui est sorti il y a 2 ans. Là, j'entame ma 2e saison de tournée.
Et alors, comment s'est passé le travail d'écriture pour ce spectacle et est-ce que vous avez été toute seule?
En fait, c'est un solo que j'ai entamé un petit peu comme un laboratoire d'essais, de réflexion, de trucs comme ça. Pendant ma dernière année de master, un master 2 en art du spectacle à Montpellier. Et j'avais envie de m'essayer à l'écriture d'un solo, de clownesque et d'essayer des trucs comme ça. Et j'avais commencé l'écriture d'un solo qui parlait complètement d'autre chose. Et pendant, au cours de l'année, j'ai moi-même avorté. Et c'était quand même un moment un peu qui a été un peu qui changeait pas mal de trucs dans ma vision de l'écriture, de ce que j'avais envie de dire et plein de choses. Du coup, je me suis dit, bah en fait, je vais écrire directement là-dessus avec un peu quelque chose d'exutoire au départ qui était j'avais vraiment envie de parler de ça. Et j'ai commencé le processus d'écriture vraiment un mois après avoir avorté. Donc c'était vraiment dans cet esprit-là. Et puis j'en ai écrit mon mémoire. C'était vraiment un espèce de laboratoire d'expérimentation. Donc en fait, à chaque fois, je faisais quelque chose, je regardais si ça fonctionnait ou pas, j'écrivais dessus, je me disais ok, cette formule elle marche moins bien. Mais en fait, quand même rapidement, on se rend compte qu'un solo, c'est pas vraiment des choses non plus qui malgré tout s'écrivent absolument seules. Du coup, j'ai fait appel aussi à des regards extérieurs qui pendant quelques jours sont venus me voir ponctuellement pour peaufiner des petites choses et tout ça. Mais vraiment, le fondement de l'écriture, je l'ai fait seule au départ. Et ensuite, assez rapidement, j'ai souhaité roder mon spectacle et l'essayer directement devant du public. Donc en fait, on peut dire aussi que ça a été d'une certaine manière écrit en duo aussi avec le public.
Comment vous avez fait pour mélanger sérieux et humour avec un tel sujet ?
Bah, en fait, ce que je trouve chouette quand même dedans l'expression clownesque, c'est qu'en fait... on peut effectivement aborder tous les sujets. On peut se marrer de ouf sur un truc et pleurer deux secondes après, quoi. Mais c'est un peu l'expression exacerbée des sentiments. En fait, cette expression-là, dans l'art vivant. Et aussi, je pense qu'un biais qui est important à mentionner dans le spectacle, que j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que ça prenait beaucoup de place, c'est que je fais de la musique live. Et en fait, c'est un peu des endroits aussi de respiration qui peuvent être parfois très drôles, d'autres moments en fait qui sont un peu plus touchants. Et vu que c'est vraiment de la musique, dans le fond, on touche presque directement aux sentiments des gens. Donc, alors évidemment, ça s'est pas fait tout de suite. Je pense que la première version du truc, je l'ai montré qu'à une seule personne. J'avais écrit 40 minutes de spectacle et c'était du pathos total. C'était vraiment tout sauf drôle. Je pense que c'était bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci aux jeunes de Radio Sommière donc, qui ont réalisé ces micro-trottoirs, Mathieu, Zia, Paul et Zeno. Alors Alex, on arrive un peu sur la dernière partie de cette dernière aussi émission ici en direct sur le plan Assumène pour les trans-sévenoles. Alors on a du monde autour de nous.
Ah oui, the last but not least.
Voilà. On va démarrer avec le radeau de l'hypoténuse, Peggy et Michel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes tous les deux scénographes en tous les cas, avec cette casquette ici autour du plateau. Alors chaque année, on a l'occasion découvrir voilà, un univers ici sur le plan et bien sûr au parc Lucie Aubrac pour la grande scène. Alors j'ai vu plein de hérissons. Quand je suis arrivée, j'ai dit « Ah, les hérissons, ça va être ma première question tout de suite. » Je te l'avais dit en off, Michel. Alors comment est-ce qu'on se renouvelle et pourquoi ces hérissons ?
Alors, comment est-ce qu'on se renouvelle ? Ben, en faisant des choses nouvelles chaque année, mais aussi en travaillant, puisqu'on avait déjà eu l'occasion d'en discuter. C'est un projet qu'on mène sur 3 ans avec les Elvis, en fait, avec donc une scénographie évolutive. Déjà, donc, on a des formes qui reviennent chaque année, et après, c'est comment on habille ces formes pour les rendre à la fois reconnaissables, qui donnent déjà une identité où les gens se disent « Ah, ben tiens, je suis déjà passé par là. Ah, mais c'était pas forcément ça. » Et ensuite, ben effectivement, sur la scène du plan, on a le gimmick des lettres trans-sévenoles qui revient, qui va revenir encore tous les ans. Et par contre, derrière, l'habillage couleur et l'habillage des animaux, puisqu'on était parti sur une thématique d'une blague avec un habitant de Sumène au départ avec les flamants roses. Et puis voilà, on a trouvé cette idée intéressante. Donc chaque année, on a un nouvel animal et cette année, le hérisson.
Peggy, tu peux un peu nous expliquer pourquoi ce hérisson et aussi le travail sur les couleurs ?
Alors le hérisson, je ne sais pas trop quoi vous dire parce qu'en fait hier on en a déjà discuté avec Michel en se disant merde, qu'est-ce qu'on va dire sur ce hérisson ? Alors j'ai proposé plein de trucs, la programmation qui pique, voilà, on peut vous dire plein de choses, mais non, c'est simplement qu'on voulait des animaux et en fait on est parti ici initialement sur un peu un jardin extraordinaire, c'est ce qu'on s'était dit. Et comme vous avez pu le voir à la cantine, les carottes, les tomates, et dans un jardin, il y a des hérissons.
Ah ben voilà l'explication, Alex.
Yes. Et plus concrètement, du coup, combien de temps on met pour fabriquer tout ce joli bazar, j'ai envie de dire. C'est quoi comme taf?
Alors, bah, pareil, comme c'est un projet évolutif, il y a déjà des choses qui existent, comme la grande tour qui est sur le plan, et puis il y a des nouvelles choses. Donc déjà, tout ce qui existe, ça a pris l'année dernière aux alentours de 4 mois de boulot. Et rien que pour cette année, avec les renouveaux, les nouveaux stands, la nouvelle déco, c'est 2 mois de boulot pour 1,5 personnes en amont. Et surtout, 3 grosses semaines sur semaine avec une autre partie de l'équipe du radeau qui bosse avec nous toute l'année. Et aussi l'apport de bénévoles du festival qui nous accompagne dans ce boulot. En gros, on est 7 ou 8 les deux dernières semaines, quoi.
Avec un attachement à l'éco-responsabilité. Il y a la notion de recyclage, d'utiliser des matériaux qui vont bien.
Ouais, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que nous, on utilise beaucoup de... En fait, le travail de scénographie, que ce soit en théâtre, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans l'événementiel, c'est une activité qui est écocide, en fait. Il y a énormément d'utilisation de matières premières qui très souvent est rejetée, quoi. Nous, par contre, on a vraiment mis en place ce qu'on espère être un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on travaille déjà qu'avec des bois qui proviennent d'ici du département du Gard, puisque nous sommes du département du Gard. Nous utilisons des peintures qui sont avec le minimum de produits chimiques à l'intérieur. On n'utilise pas de colle, on n'utilise pas de produits chimiques aldéhyde, de tout ça. On a sorti tout ça de notre façon de bosser. Et ensuite, toutes nos scénographies sont entièrement démontées et retravaillées pour les années suivantes. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que les gens ne reconnaissent pas parce qu'on les a transformés. Déjà, il y en a certains qui en sont à leur troisième ou quatrième transformation jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des allumettes. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire des tours Eiffel en allumettes. Mais voilà, on a vraiment cette volonté de recherche. Et du coup, le hérisson, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que le hérisson, c'est quand même un animal qui est vraiment en danger. C'est un animal vraiment typique aussi de notre... Enfin, il y en a partout dans le monde, mais dans notre région, il y en a beaucoup. Et on sait que cet animal est en danger, en voie de disparition, suite à la disparition des insectes, etc. Donc, le hérisson, c'était aussi ce clin d'œil pour dire... nous, on aime bien les hérissons, pas en soupe, mais en animal vivant, quoi.
Alors, au Trans-Sévenol, il y a beaucoup de bénévoles, hein. J'imagine qu'il y a une équipe certainement bénévole scénographie. Comment est-ce que vous les accueillez et est-ce que c'est des personnes ou des jeunes peut-être qui sont intéressés forcément par exemple par la scénographie ou pas du tout?
Alors c'est déjà une équipe qu'on essaye de fidéliser depuis quelques années. On a des récurrents, Ghislaine qui vient à la peinture, à qui on donne un nouveau diplôme tous les ans. On a eu des nouveaux aussi cette année, des jeunes qui cherchent aussi, qui n'ont pas de travail, qui ont envie d'essayer les trans, qui ne l'ont jamais fait. Et puis, on a des habitants qu'on rencontre, parce que comme nous, on est là pendant 3 semaines, on a aussi le temps avec Michel d'aller au Café de la Place, voir Yves, à qui d'ailleurs cette année, on a fait un petit clin d'œil en lui mettant un photo ma tronche pour que les gens puissent se prendre en photo chez lui. Et on rencontre aussi beaucoup de gens. Donc du coup, on les sensibilise et on leur dit, bah, ça vous dit de venir avec nous. Voilà, donc on se fait notre petite équipe et puis de temps en temps, on se fait un peu gronder par les trans parce que du coup, on pique des bénévoles à gauche et à droite qui viennent nous rejoindre. Et chacun, en fonction de sa caractéristique, de ses particularités, de ses compétences, choisit aussi un peu ce qu'il préfère faire. Est-ce qu'il préfère faire de la peinture? Est-ce qu'il préfère être sur la construction, sur du montage?
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Avec plaisir.
Eh bien, Alex, comme la tradition le veut, hein, on a l'habitude d'ouvrir et de fermer ces émissions ici en direct sur le plan Assumène pour les Trans-Sévenol, eh bien avec une toute petite partie de l'équipe. Hein. Alors, on a Sébastien ici sur le plateau, Loïc, le président des Elvis Platinés, et Léa. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on arrive sur le début de soirée, là, donc deuxième soir des Trans-Sévenol. Comment est-ce que vous vous sentez? Allez, tiens, Loïc, on va démarrer avec toi.
Vous êtes sûr?
Oui.
Non, alors, très bien. Bon, y a eu cette pluie un peu ce matin qui a un peu gêné le festival, mais non, on est très confiants, on est très contents. On a passé une très belle soirée hier avec des artistes, un super beau plateau sur la soirée, la journée avec des spectacles de qualité. On est vraiment ravis. Et ça repart ce soir et on attend beaucoup du plateau qu'il va y avoir ce soir. Je crois que vous avez déjà eu quelques artistes.
Oui, on a eu Rafu qui va démarrer ici sur le plan. Ensuite, on a eu Sage comme des sauvages et on a eu aussi Adjaté. Et voilà, et Meul qu'on écoutera à la fin justement de l'émission.
Super, pour se quitter. Peut-être justement un petit mot sur cette programmation artistique. Belle cohérence sur les deux soirs de... Ouais, de la festivité, de la convivialité, de l'originalité, c'est un peu les mots, la ligne de la direction artistique.
Alors, je vais laisser la parole à Sébastien pour ça, parce que la programmation, c'est vraiment lui, donc il sera le plus à même pour répondre.
Non, mais oui, effectivement, l'idée, c'est à partir du moment où on essaie de... vraiment de prendre la position d'une manifestation qui est dédiée à la découverte, à l'émergence, en tout cas sur la partie musique actuelle, etc. L'idée, c'est d'essayer, sur le parc Lucie Aubrac, mais aussi sur le plein, etc., de proposer des groupes de musique qui ont, quel que soit le style musical, une singularité, une écriture en rapport au public. Je me répète un peu des fois quand je dis ça, mais c'est vrai, c'est important pour nous, c'est ce que ça rend après sur scène, en live, et l'espèce d'harmonie qui peut se créer aussi avec les gens. Et ça, on peut le retrouver dans plein de styles musicaux. Et la soirée du samedi, on l'a construite d'une certaine manière, avec autour de sonorités plutôt électro, on va dire, d'une manière très, très large, hein, puisqu'on était entre de Edena à Maraboutage, on était dans des univers musicaux et des énergies différentes, mais il y avait quand même un petit fil rouge sur la soirée. Et ce soir, on est sur quelque chose, sur une autre énergie, avec de la chanson, des musiques du monde, avec du crotrock, avec de l'afrobeat joué par des Japonais. Enfin voilà, on a envie de susciter la curiosité en fait des gens et qu'ils arrivent à se dire bon ben voilà, on vient, on passe un moment festif et on découvre des super artistes. Et puis sur les arts de la rue, on a aussi cette envie de à la fois d'avoir des propositions qui s'adressent à un grand public, mais aussi qui vont interroger des sujets sociétaux. C'était le cas notamment cette année avec Clara Oman, avec le théâtre de Caniveau, enfin avec la plupart des propositions en fait. Et en essayant de trouver un équilibre aussi entre des formes plutôt théâtrales, des formes plus déambulatoires ou circassiennes. Voilà, c'est un subtil mélange de tout ça.
Léa.
Oui.
Une nouveauté cette année au Trans Cévenol, hein. Hier, en ouverture à 10h30, plein de vélos, des trottinettes, des enfants, des familles. La parade à roulettes.
Oui, la
Est-ce
parade.
Que tu veux nous faire un petit peu un retour? Parce que tu étais très émue hier quand ils sont tous arrivés sur le plan.
Oui, en fait, ça fait 2 ans que le festival a décidé de travailler dans notre démarche éco-responsable sur les mobilités. Voilà, parce que c'est un des premiers postes. D'impact carbone pour un événement de notre ampleur. Du coup, l'année dernière, on a misé sur le covoiturage, on a essayé de comprendre comment les gens se déplaçaient. Et de là, on est ressorti l'idée de travailler sur le vélo. Et en plus, on a une superbe voie verte, donc pourquoi pas le vélo. Et en fait, cette aventure, elle a commencé en janvier, où on a invité les bénévoles et des habitants, d'ailleurs, j'en remercie certains qui sont venus, à réfléchir ensemble, alors qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà, on s'est posé une question. Comment privilégier les mobilités douces? Et puis une deuxième question. Si on fait du vélo, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis ça s'est transformé en organisation de A à Z par une équipe de bénévoles, très soutenue par l'équipe du festival, mais en totale autonomie, ce qui est assez rare pour les transcévenols, je trouve. Et ça a été une grande réussite, je pense, parce que déjà des bénévoles se sont emparés de cette idée, l'ont menée jusqu'au bout, et puis on a vu des bandanas un peu partout dans le festival. Et on était une cinquantaine, je crois, à longer la voie verte cette année. Et je pense que c'est une belle réussite, déjà 50 personnes qui nous suivent à vélo, à roulette.
Merci beaucoup, tous les trois. On va devoir terminer parce que sinon on a Laurent qui va arriver avec son vélo, qui va nous demander d'arrêter tout de suite puisque le concert va démarrer sur le plan dans pas longtemps. Merci beaucoup, très belle soirée. Alors Alex, peut-être on rappelle un petit peu les concerts de ce soir.
Oui, bien sûr, on l'a déjà dit, mais on peut le redire. Adjaté en conclusion de cette soirée, du coup, avec leur afrobeat japonais, ouais, rien que ça. Meul, là aussi, jolie proposition scénographique avec deux batteurs sur la même scène. Soyez là, et puis vous les avez entendus tout à l'heure aussi à nos micros, les Sages comme des Sauvages à 20h45. Et puis nous, on va laisser la place à Rafu aussi, tout simplement.
Oui. Et donc c'était notre dernière émission ici en direct sur le plan Assumène. Merci à Hugues de Radio Système, merci à Ben et Léo de Radio Bartas, merci à Sarah et Alex de Rage, merci aux jeunes Zia, Mathieu, Paul et Zeno et Ben de Radio Sommière. Merci à Escapade, Fabien, Antoine et moi-même, Siam. Siam, et on se retrouve l'année prochaine pour la 28e édition.
Grand plaisir.
Just go.